j'appelle suite à la réaction vis-à-vis de la fin des remboursements à 100% pour les maladies longue durée. Et donc je suis très très choquée car où va-t-on et jusqu'où on va aller dans la casse du service public qu'on paye déjà sur nos salaires. Et donc j'espère qu'il y aura de l'action vis-à-vis de ça. C'est vraiment scandaleux de savoir que maintenant, quand on sera malade, on payera en plus d'être malade. Et sachant que les salaires sont bas, peut-être qu'il y en aura plein qui n'auront plus le moyen de se soigner. Donc c'est vraiment, encore une fois, une attaque frontale des classes populaires. Et va-t-on encore laisser passer ça? Et bien sûr, je suis concernée par mon enfant. Et comment va-t-on faire pour tous les enfants qui ont un médicament qui vaut peut-être 1000 euros et donc ça veut dire qu'on va laisser carrément mourir les gens.
Oui, voilà, bonjour. Je l'ai écouté vos deux émissions concernant le 19e arrondissement où j'ai résidé pendant 35 ans. Et bon, effectivement, c'est différent. C'était pas des conflits ethniques à l'époque, mais c'était quand même des bandes de blousons noirs, quoi. Et bon, bah, j'ai 59 ans, donc je connais bien le coin. Et bon, une petite parenthèse tout de même, que je dois vous signaler que Joe Star maintenant habite le Neuilly. Voilà, on va continuer, c'est très bien comme ça. Au revoir.
Salut Mermet, salut toute l'équipe, c'est Christine de Nîmes. J'appelle pour laisser un message pour le repère de Nîmes et de ses alentours. Notre réunion aura lieu mercredi 25 juin à 19h30 au Café La Brasserie, comme d'habitude. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux. Bye, à une prochaine.
Oui, bonjour. J'écoute vos émissions depuis 92. Et je pense que les deux émissions sur commissariat du 19e, c'était un peu poussé. Je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais en tout cas, c'était réussi. Moi, je peux vous dire que ces gens-là, franchement, ils me font ni chaud ni froid. Parce que de toute façon, à partir du moment où vous choisissez ce genre de métier, c'est que vous l'aimez bien. Et bon, surtout quand il s'agit de flics de base, à la rigueur, commissaire machin, tout ça, bon, bah, c'est un peu différent. Mais quand vous choisissez gardien de la paix, hein, vous savez parfaitement à quoi vous attendez. Hein. Donc maintenant qu'il vient pleurer, bon, bah, vous savez, hein, de toute façon, hein, il aime bien le pistolet, gyrophare, taper les gens, hein, les mettre par terre, s'asseoir dessus à quatre, et puis voilà. Puis il faut voir comment il vous parle quand il n'y a pas de caméra. Hein. Parce que quand il y a une caméra, bon, bah, c'est toujours « bonjour monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur ». Mais pas de caméra, il faut voir comment il vous parle. Hein. Et puis si vous dites au moindre chose, c'est tout de suite l'outrage ou délit d'obtempérer. Voilà, donc je vous dire que hein, de toute façon, ces gens-là, s'ils ne sont pas contents, hein, ils n'ont qu'à retourner à faire ce qu'ils faisaient avant, hein, plombier ou je sais pas quoi. Allez, bonne journée.
Salut à toute l'équipe de La Basse, si j'y suis. C'est Joël, à Villiers-le-Bel. Oui, Daniel, donc... hier, j'écoutais l'émission et puis l'introduction donc, que tu en as fait. Puis à un moment, tu dis « Oui, mais faut comprendre que les policiers sont le reflet un peu de la société. Il peut y avoir des abrutis, des gens qui pètent les plombs et tout ça. » Seule différence quand même avec le citoyen lambda, c'est que les flics ont la loi avec eux et ils ont des armes entre les mains. Et maintenant, ils ont des tasers aussi. Donc, c'est quand même un petit peu la différence. Puis, je tiens à rappeler ce qu'il y avait un policier dans l'émission donc, d'hier, mardi, qui disait, mais de toute façon, ce sont des abrutis, ils leur demandent deux fois les mêmes choses. Il faut savoir que, par exemple, les policiers font des contrôles incessants de jeunes. Ils viennent les contrôler une fois, deux fois, trois fois, assez souvent. Donc là-dessus, là aussi, c'est toujours assez surprenant. Et enfin, pour terminer, je rappelais quand même que dans le 20e, donc pas très loin du 19e, l'année dernière, il y a un jeune de 25 ans qui est retrouvé mort dans les mains de la police, entre les mains de la police, il s'appelait Lamine Diène, donc c'était dans le 20e, dans le quartier d'à côté. Donc voilà, avec la police, voilà quoi. Il y a aussi, c'est l'État, c'est le représentant de l'État, comme le dit l'un des policiers. On est l'État. Donc voilà. Bonne continuation à vous.
Jean-Marc à Paris. Voilà, je t'appelle pour rapport à ton émission là sur l'agression qui a eu lieu dans le 19e, ce qui est de toute façon odieuse parce que c'est une agression. S'il s'agissait bien d'une agression antisémite, c'est d'autant plus, je dirais pas odieux, mais je crois que c'est assez inqualifiable. Simplement, juste pour information, il y a eu le 15 mai dernier, moi j'ai été témoin, j'ai témoigné devant la police, Politis a fait un article dessus, mais il y a eu un grand silence médiatique sur l'agression par une trentaine de membres des milices d'extrême droite sioniste Bétard, LDJ, d'un regroupement d'informations autour de la Palestine qui avait eu lieu boulevard Voltaire, enfin rue Voltaire très exactement. Donc c'est une information qui est parue, moi j'ai été témoin d'agression, je te dis j'ai témoigné, et en fait aucun mot là-dessus, donc effectivement un malheureux constat d'un choix médiatique un petit peu complexe. Voilà. En tout cas, bon courage, à plus tard.
Eh ben oui, en effet. En effet, le 15 mai à 23h, en plein Paris, en pleine rue, 6 personnes ont été agressées par des hommes casqués et vêtus de noir. Il y a eu un blessé grave, mais aucun écho dans la presse, comme vient de l'indiquer cet auditeur, à l'exception de l'hebdomadaire Politis. Ça s'est passé boulevard Voltaire, au CICP, Centre International de Culture Populaire, à la sortie d'une conférence donnée par le journaliste Georges Malbruno, auteur d'un livre chez Fayard sur Georges Habache, le dirigeant palestinien qui est disparu en janvier 2008. Alors, Georges Malbruno lui-même n'a pas été attaqué, mais les personnes présentes, des militants pro-palestiniens, entre autres, ont été agressés à coups de poing, à coups de pied, à coups de bouteille, et avec des gaz de défense par un commando d'hommes en noir portant des casques. Et un technicien de ce centre, CICP, a été gravement blessé. Il a été secouru par les pompiers. Il a été hospitalisé, victime de fractures multiples. C'est quand même pas rien pour qu'une chose comme ça se passe dans Paris. Eh bien, aucune espèce de d'écho dans les médias. Il s'agit pourtant d'une attaque préméditée, en bande organisée. Une plainte, comme vient de le dire cet auditeur, a été déposé à la police du 11e arrondissement pour violence volontaire. Une enquête a été ouverte. Des témoignages ont été recueillis dans le voisinage. Et pour les habitués du centre, aucun doute, les agresseurs appartiennent effectivement au mouvement d'extrême droite sioniste, la LDJ, la Ligue de Défense Juive, qui déjà en janvier 2008 avait tagué les murs du centre avec des slogans comme « Israël vaincra »,« Arafat assassin »,« Mort aux Arabes »,« Israël vivra » et la LDJ, Ligue de Défense Juive, LDJ vaincra. Donc voilà, agression et agression, blessés et blessés, déplorable évidemment dans le 19e, mais on voit que ce serait un petit peu, peut-être, éventuellement, deux poids, deux mesure. Voilà. Aujourd'hui, on continue troisième volet de ce séjour dans ce séjour au poste. On reste au poste avec Pascal Pascariello qui a essayé de comprendre un peu comment ça fonctionne de l'intérieur, y compris même à l'intérieur de la tête d'un flic. Peut-être que ces gens-là ne sont pas tout à fait l'idée que l'on s'en fait généralement. Il est bien vrai qu'ils ont la différence qu'il y a entre le citoyen lambda et un flic, c'est que le flic a un flingue, ça c'est bien vrai. Quel usage en fait-il ? On est abreuvé d'histoires d'abus, de bavures, etc. On a essayé de voir les choses un petit peu différemment de l'intérieur. C'est notre sujet du jour jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Ouais, bonjour Daniel, je suis Christine du Poitou-Charentes, là où la route est bien droite, puis la pente est raide. Bah, là où ça va être raide, c'est pour les ALD comme moi, tu sais, les infections de longue durée, dont on veut plus rembourser qu'à 35% les médicaments dits de confort. Alors moi, je voudrais dire que quand on a une ALD en général, le confort, on sait pas trop bien ce que c'est. Hein. Parfois, c'est juste un peu moins gerbé, un peu moins vidé, un peu moins avoir mal. Eh ben moi, je les emmerde tous, les donneurs de leçons, d'efficacité, de rentabilité, d'économie. Moi aussi, je vais être efficace en allant me répandre sur la moquette de leur beau bureau. Et j'invite tous les ALD, les handicapés, les bons à rien de la société à faire comme moi. Tu vois, le patron de la CNAM, là, et puis c'est tous ses copains, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on vende notre vie en direct à la télé, notre souffrance, à de la rue. Peut-être même nos morceaux à la recherche, notre viande à Royal Toutou, nos cheveux, tout. Bah, il y a encore du bon, et puis ça améliorerait l'ordinaire. Car avec une AH à 630 euros, c'est pas le yacht à Bolloré tous les jours, moi je te le dis. Et le patron de la CNAM et tous ses copains, ils étoufferont peut-être de honte en nous voyant. Allez les mecs, résistez, c'est créé. Sans leur médoc de confort, on va être enragés. Vive la révolte antilibérale des éclopés. Salut.
Bonjour, Yves Lecoeur d'Avignon, du réseau Éducation sans frontières. Voilà, ben, c'est une petite information concernant le cercle de silence que nous organisons pour le réseau Éducation sans frontières le samedi 28 juin, comme nous l'avons fait le samedi 31 mai, le réseau Éducation sans frontières. UCIJ 84, association CASA et la MAS d'Avignon, invite toutes les personnes qui se sentent concernées par l'inacceptable traitement qui est fait aux travailleurs sans papier, dont certains, de plus en plus nombreux, n'oublions pas, sont acculés au suicide, à un cercle de silence, samedi 28 juin, 18h30, sur la place de l'Horloge, devant la mairie d'Avignon. Manifestons ainsi de manière non violente, contrairement à ce que voudrait faire croire le gouvernement suite à des incidents autour d'un CRA, cette honteuse résurgence de certains camps du temps passé, contrairement à ce que voudrait faire croire un gouvernement à qui seul profite le crime, son crime, celui de traiter de façon inhumaine, odieuse, ignoble, des êtres humains qui ne sont pas délinquants et ne demandent qu'à vivre dans des conditions dignes des humains, contrairement à ce que voudrait faire croire un gouvernement bien content de pouvoir justifier ainsi une répression croissante, nous manifestons ainsi notre refus que soient appliquées en notre nom des décisions politiques qui broient non seulement des libertés, mais également des familles, des hommes, des femmes, des couples, des individus, des enfants, et constituent une réelle, dramatique, inacceptable atteinte aux droits de l'homme en usant auprès de leur nouvelle cible de ces traitements inhumains et dégradants. Merci de nous rejoindre nombreux, que personne ne vienne dire un jour « nous ne savions pas ». Samedi 28 juin, 18h30, place de l'Horloge, cercle de silence.
Toutes les polices sont instrumentalisées. C'est disons que des fois, quand on montre certaines choses à la télé, c'est pas fait pour assurer la population. Je sais que moi, TF1, des fois, des façons de filmer les situations derrière un œil de bœuf. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que si on montre une image comme ça, ça arrange tout le monde. Quand on veut que les gens votent à droite, on provoque un sentiment d'insécurité.
Salut, c'est Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, avec Pascal Pascariello. On aime les histoires de flics, mais on n'aime pas les flics.
Flight number 2, arriving from...
Et là, donc, vous hébergez une personne qui est sans abri à
voilà.
L'accueil.
Elle est à l'accueil, elle vient régulièrement ici. Donc, en fait, la nuit, il n'y a que nous, en fait, qui sont disponibles. Donc, des brigades de nuit ou le SAMU social et tout ça. Mais vu que la plupart du temps, le SAMU ne veulent pas trop prendre les gens pour X ou Y raison, en gros, il faudrait qu'ils soient propres, qu'ils n'aient pas bu. En fait, si vous voulez, notre métier, je ne devrais pas le dire, mais on est un petit peu, entre guillemets, les éboueurs de la société. C'est-à-dire que les éboueurs ramassent les déchets. Nous, on va ramasser tous les laissés pour compte de la société, en même temps que ceux qui vont faire des bêtises. Donc c'est vrai qu'on est constamment confronté à la misère sociale. On peut tous se retrouver confrontés un petit peu à une situation qui peut nous rappeler notre vie personnelle. Moi, je sais que moi, je suis père de 3 enfants. Quand j'arrive dans des situations où je vois des enfants au milieu, ça me fait toujours mal au cœur. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois à prendre peut-être un petit peu plus parti qu'à d'autres moments. Et c'est justement l'erreur à ne pas commettre. C'est, même si on a un uniforme, on n'est pas des robots, mais on devrait l'être sur le papier. Et ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. On se retrouve un peu comme entre le marteau et la faucille. C'est-à-dire d'un côté, il y a l'État, d'un autre côté, il y a la population, et nous, on est au milieu. C'est-à-dire que quand pour l'État, c'est bien de servir de plomb et d'intermédiaires, et ben ils n'hésitent pas à nous faire sauter. Et quand la population n'est pas contente, bah c'est toujours sur nous qu'on se décharge. Donc c'est un petit peu facile. Nous, on n'est pas là pour régler les problèmes. On est juste là pour faire appliquer la loi. Et les gens ont tendance à croire que des fois que nous, c'est nous qui faisons la loi, alors que c'est pas du tout le cas.
Voilà, ça se passe dans le commissariat du 19e arrondissement, rue Éric Satie, à Paris, entre le marteau et la faucille. Il est coincé, ce policier, ce jeune policier, qui ouvre la porte du commissariat à une personne sans domicile fixe qui erre et qui ne sait pas où aller. Alors, voilà, ça finit au commissariat. Tout ça finit au commissariat. Beaucoup de choses finissent au commissariat ou commencent au commissariat. En tous les cas, passent par le commissariat. Beaucoup de galères, d'effroi, de désarroi, d'angoisse, d'injustice, de toutes sortes passent dans ces commissariats, et en face de ces souffrances, la plupart du temps, il s'agit bel et bien de souffrances, il y a des gens qui sont absolument pas préparés pour ça. Ils sont là pour appliquer l'ordre, pour faire respecter l'ordre, garder la paix, garder l'ordre, un point c'est tout, en principe, car bien sûr, si vous regardez de près, à l'intérieur de l'uniforme, il y a des êtres humains qu'on appelle des flics, mais qui sont quand même des êtres humains. Si, je vous garantis, on a même trouvé des flics à visage humain dans les émissions précédentes, et on va en trouver à nouveau aujourd'hui, jusqu'à 16h dans la Bastille. J'y suis avec Pascal Pascariello. On aime les histoires de flics, mais on n'aime pas les flics.
Mon policier à la police, sa moustache n'est pas un postiche. Son doux regard pétille de malice lorsqu'on l'amadoue avec un bâtiche. Enfin gourmet, il va au manif. Sans préjugé, il frappe au jugé. Dans ses Rangers, il est super actif. Il fait des dégâts dans le camp des agités. Il grogne souvent lorsqu'il est en faction. Il voit passer les jeunes sans cesse son obsession. Ce qu'il lui faudrait, c'est un peu d'action. Un passage à tabac, une arrestation. Moi je l'aime comme il est. Je le trouve fier, allure, suspicieux et zélé. Il est récent. Je le trouve fier, allure, suspicieux et zélé. Mon policier, j'aime qu'il me parle, qu'il me questionne. Oh, j'aime qu'il me frappe, oh oui, qu'il me sermonne. Avec lui, c'est tous les soirs. L'interrogatoire.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes venu justement?
Pourquoi je viens? Parce que je viens signaler mon abandon de domicile conjugal, en fait. Mon épouse ayant déclenché une procédure de divorce. Voilà pourquoi je suis là. Sur un conseil juridique que je suis venu là. Mais de toute façon, mes enfants me traitent de voleur, de menteur, parce que madame, on va dire, d'après elle, les prépare. Donc à sa manière, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est assez dur de se faire traiter de menteur et de voleur par ses enfants. Bon.
Ça fait quel effet d'entendre ça de ses enfants?
Ouais, voilà.
Ça fait mal au cœur, quoi.
En fait, c'est pour un vol de MP3.
J'habite pas loin, oui. Je me suis fait voler ici aussi.
Et tu as quel âge ?
16 ans.
C'est la première fois que tu te fais voler ?
Non. En fait, je les compte plus, mais... je sais pas, 5. Bon, sur 3 ans, quoi.
Tu saurais me le décrire ?
Il était plutôt grand, enfin 1m85, un peu plus, je pense.
J'ai pas le moral, désolé. Mais si vous arrivez, j'ai pas le moral. Vous êtes venu au commissariat pour déposer plainte. Pour quelqu'un, il m'a séquestré. Il s'est séquestré.
Oui.
Je vivais avec lui pendant un an. Il m'a pris la clé chez moi, mon portable, mes papiers, mon sac, tout. Il me dit, si tu sors, je vais t'égorger, je vais te tuer. Vous faites quoi comme métier? Je travaille serveuse chez lui.
Dans son bar?
Oui, dans son bar. Mais il profite de moi. Grave. Je l'ai aimé, maintenant je ne l'aime plus. C'est fini. À jamais. Je le déteste. Tout l'amour que j'avais pour lui, j'ai de la haine pour lui. Je le déteste. Parce que trop bon, trop con. Moi, il me rend mes affaires. Moi, je veux rien. Je veux qu'il me rend mes affaires, c'est tout. Moi, je lui fais pas de mal. Moi, je lui ai jamais fait de mal. Je lui ai jamais fait de mal. C'est lui qui m'a fait beaucoup de mal. Mais il va punir. Il va bien payer. Il va payer très cher. Le bon Dieu, il va le payer.
En première ligne, face au désarroi, les flics qui se trouvent derrière le guichet de ce commissariat de police du 19e, c'est les plaintes, le bureau des plaintes, le bureau des pleurs et des grincements de dents et des plombs qui pètent. Et c'est comme ça toute la journée, y compris la nuit. Alors, il y a une chose quand même qui est importante, c'est à partir d'ici, à partir des plaintes déposées dans ces commissariats, que sont établies les statistiques en matière de délinquance, qui sont chiffres qui sont publiés régulièrement et qui sont généralement à la baisse, en tout cas depuis entre 2002 et 2007, lorsque notre actuel président de la République était ministre de l'Intérieur. Ça a drôlement baissé, évidemment. Les chiffres de la délinquance, c'est une affaire extrêmement politique, politicienne, on pourrait dire. Or, un rapport officiel publié début 2007 a montré que beaucoup de délits sont oubliés et échappent aux statistiques. Ah, dites donc, une chose dont on ne serait jamais douté. Mais on a quand même voulu savoir un peu sur place comment ça se passe et qu'en disent les intéressés. À commencer, évidemment, par le commissaire lui-même, le commissaire du commissariat du 19e arrondissement, le commissaire Serge Kilikini.
Bon, allez, en 3 ans, on peut considérer que la délinquance a quand même reculé, puisque nos chiffres, je ne vous les communiquerai pas, parce que je ne suis pas en mesure de vous les communiquer, ça appartient au préfet, mais les chiffres ne cessent de s'améliorer, puisque je crois que c'est plusieurs milliers d'infractions qui ont été évitées. L'activité statistique est effectivement importante, on nous demande beaucoup de statistiques, mais en même temps, dans une époque où on doit rendre des comptes, notamment aux usagers, il est important de pouvoir arguer d'une activité. Et quoi de mieux qu'une activité chiffrée? La police a une optique comptable, mais en fait c'est incontournable. On doit avoir un tableau de bord précis, et les statistiques nous offrent ce tableau de bord. Est-ce qu'on est mieux que l'année dernière? Est-ce qu'on est moins bien? Il faut qu'impérativement, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque année, ou chaque trimestre, on puisse savoir où on va.
Voilà, il faut... Le commissaire Kilikini est dans son rôle, il ne pourrait pas nous dire autre chose que ce qu'il nous dit là. Il y a des chiffres, et il faut remplir les chiffres, et puis il faut remplir les directives et se voir un petit peu comment on en est par rapport aux directives, et puis on peut dire être dans les clous, là, si vraiment une expression qui correspond bien. Mais c'est le commissaire qui parle ainsi, c'est pas tout à fait comme ça que parlent certains commandants.
Le silence, vous l'aurez sur les chiffres, la politique du chiffre, vous l'aurez sur les suicides, vous l'aurez sur un tas de choses. Les gens ne parlent pas. On ne peut pas parler. Les gens ne parleront pas parce que s'ils parlent, ils ont l'impression qu'ils vont peut-être être sanctionnés, ce genre de choses.
On n'arrive pas à répondre autrement que par la sanction.
Ben oui, c'est... Il faut revoir certaines méthodes de management aussi.
Alors la voix de ce commandant est un peu bizarre. Hein. Eh ben on l'a modifié parce que celui qui nous l'a demandé, c'est un homme expérimenté, on dirait un vieux de la vieille, et qui a sa petite idée et ses petites analyses en ce qui concerne la politique, les chiffres.
Le gouvernement, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, j'ai toujours connu la politique du chiffre.
Mais alors c'est quoi qui est nouveau maintenant?
Bah, c'est plus encore chiffre qu'avant. À l'Ouest, rien de nouveau, mais il y a plus quantitatif qu'auparavant. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que les hauts fonctionnaires ont on appelle la culture du résultat. Bon, alors c'est quoi la culture du résultat? Bah, ils traduisent ça en termes de chiffres, quantité. Il y a beaucoup d'interpellations, il y a beaucoup de gardes à vue, il y a beaucoup de... Donc on a du résultat, regardez, mais on règle rien. On ne règle rien. Par exemple, la direction, ils vont dire, bon ben voilà, je souhaiterais que les ports d'armes prohibés soient renforcés. Bon, c'est le vœu du préfet. Le préfet dit ça à un directeur, lequel directeur va dire à ses sous-directeurs, bon, il faut augmenter, il faut faire en sorte que les ports d'armes soient renforcés. Lesquels sous-directeurs vont dire à des commissaires centraux, attention, là, il faut. Lesquels commissaires centraux vont dire, ah, là, maintenant, il faut, ça va s'amplifier, au plus ça va descendre dans la hiérarchie, plus ça va s'amplifier. Et plus, alors, on risque d'arriver, bon, effectivement, alors, il y a un officier qui va dire, ben là, telle brigade, telle unité, vous avez fait un travail de merde parce que vous n'avez rien ramené. Donc, à la base, ils vont se dire, bon, ben, il faut qu'on va les satisfaire et on va ramener, tiens, un port d'armes, un couteau suisse. Au moins, ça va rentrer dans un bâton, on appelle ça, d'affaires réalisées pour les ports d'armes prohibés. Tout le monde sera content. Et eux, ils vont mettre un bâton. Ils disent, ben, monsieur le lieutenant, j'ai ramené, ce mois-ci, 8 ports d'armes prohibés. Seulement, ça fait 8 ports d'armes prohibés, c'est purement quantitatif. Seulement, ce qu'on ne dit pas, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans ces 8 ports d'armes prohibés, il y en a 3 qui étaient des braves gens qui avaient un couteau pour manger, un couteau à la guiole ou une opinelle, et qu'ils ont été interpellés dans des conditions où il n'y avait pas de problème. On m'a ramené une fois un individu qui était cuisinier et qui avait un couteau de cuisine. Et on m'a dit, mais je vous le ramène parce que j'ai pas fait mon quota cette semaine. Et que si je le ramène pas, je vais me faire taper sur les doigts.
Ouais, d'accord. Donc le major, on va te montrer.
D'accord, donc une jeune fille de votre
mère. Je me suis réveillé ce matin et jamais, si on m'aurait dit, tu vas faire de la garde à vue aujourd'hui, je lui aurais dit, non, c'est pas possible. Mais ouais, c'est vrai.
Vous êtes arrêté, pourquoi?
Mais en fait, c'est un truc super aberrant parce que on est arrêté parce qu'on faisait une séance photo. Parce qu'en fait, je suis élève comédien, je suis acteur, et on faisait une séance photo, mais avec une arme face, une fausse. Et voilà, et après, on est venu nous arrêter. Et donc, on est en garde à vue, pour moi, c'est super, j'arrive pas à y croire que je suis là.
Vous avez quel âge?
J'ai 27 ans.
C'est la première fois que vous venez au commissariat?
Ouais.
Merde, putain.
Ouais.
Et là, on va faire quoi? Prendre vos empreintes?
Ouais, je te rappelle après.
Bah ouais, empreintes. Ouais. Empreintes photo, taille.
Vous allez être fiché à partir de maintenant?
Ouais, je crois, ouais. Mais je sais pas, je suis mal à l'aise pour vous parler parce que je suis pas de bonne humeur pour bien parler, sinon je serais en train de chatcher avec vous. Mais là, j'étais en train de faire des photos. C'est une fausse arme, mais.
Ils peuvent pas vous retenir en garde à vue pour une fausse arme?
Bah si, parce qu'ils considèrent que c'est de quatrième catégorie, et je sais pas quoi, et voilà. Je suis pas en train de. C'est pas inventé, hein. Ça y est, ça commence à péter les plombs quand même. Donc voilà, c'est juste ça. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que je suis en train de péter un câble, en vrai. C'est abusé.
Et pendant l'audition, on vous a...
Bah, j'ai expliqué la vérité. J'ai rien à me reprocher, moi, à la base.
Et l'officier, il vous a dit quelque chose ou pas?
Il m'a fait la morale. Il m'a dit que c'est voilà, ce que vous avez fait, c'est dangereux. Nanana. Imaginez que ce serait le soir, un jeune policier, il serait venu, il aurait paniqué, peut-être il aurait tiré sur vous. C'est toujours bizarre de se retrouver en garde à vue pour... À la base, c'est une séance photo. C'est ça, dans ma tête, c'est bizarre. C'est très, très bizarre. Moi, on me dit ça, moi, on me dit, on vous confisque tout et vous recommencez plus. Nanana. Ça y est, c'est bon, c'est basta. C'est fini. Je le ferai plus. Parce qu'avant, moi, je savais pas qu'il fallait avoir une autorisation, fallait appeler le préfet pour avoir une autorisation. Je savais pas tout ça, je le savais pas.
Alors, les empreintes.
Donc vous restez détendu, vous me laissez faire. La main gauche, s'il vous plaît. Vous vous mettez sur ma gauche.
Ouais.
Voilà, alors là, on prend les empreintes, il est 13h. Ce monsieur a été arrêté, il est en garde à vue depuis 11h du matin. Et le dénouement, eh bien, ce sera en fin de journée.
Alors, expliquez-moi, donc l'affaire des trois jeunes qui avaient fait des photos avec une fausse arme, c'est ça?
Oui, en fait, ils avaient prévu une séance photo, donc ça s'appelle un shooting photo, en fait, avec des armes de poing, bon, certes factices, mais dont l'une paraissait vraiment réelle. Donc, les suites à donner après appel magistrat, un simple rappel à la loi, donc qui s'avère être, comme son nom l'indique, un petit rappel de la loi, ne pas effectuer de photos ou de shooting photo comme ça, avec des armes, je dirais, même factices, hein, en pleine voie publique, devant, je dirais, tout le monde. Quoi, c'est...
Vous êtes l'officier de la police judiciaire qui s'est occupé avec un autre officier.
Avec une autre collègue, on s'est occupé effectivement de cette affaire-là qui a commencé donc à 11h ce matin et qui a terminé ce soir, 20h.
J'en ai marre d'être un flicard. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Tu crois peut-être que ça me fait marrer, balancer des contraventions et de surveiller ta chaussée, petit con. Non, j'en ai marre. Contenir les manifestants, se faire bombarder de pétards. Tu crois peut-être que c'est bandant, petit anard. Non, j'en ai marre. Moi je voudrais passer la barrière et vivre de l'autre côté avec les clodos, les grands-mères et les drogués. Mais autre part, ouais j'en ai marre d'être un flicard. Oh j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je voudrais bien partir à la mer, dans de la ville aux scrogneugneux, et puis troquer mon revolver contre un peu de ciel bleu, bleu, bleu. Est-ce que lundi, je vais rentrer, bosser sous mon képi azur, pour me faire traiter de poulet, c'est pas si sûr. Et faudra voir, je pourrais faire du bénévolat, pour les enfants des émigrés, je pourrais partir à Ouagadougou, Calais, à Zanzibar, à Zanzibar. Oh, j'en ai marre d'être un flicard. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Tant pis pour ma grosse moto et pour mon super gyrophare, pour ma combinaison costaud et mon pétard. Je me barre, je me barre, je me barre, je me barre.
Depuis 26 ans policier, depuis 8 ans au GRI.
Vous êtes rentré à quel âge?
23 ans. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, pas de travail là-bas et ici il y avait des garanties.
Et avant vous faisiez quoi justement?
7 années de travail dans le bâtiment. 16 ans jusqu'à 23 ans, bâtiment, la tâche, travailler au mètre carré. Donc la police, c'était le rêve.
C'était le rêve par rapport à l'emploi?
Oui, et puis même le salaire, les conditions de travail, la reconnaissance. Il y avait encore, ouais, que maintenant, peut-être un peu moins. C'est peut-être plus banal maintenant, le métier de policier. Le policier était peut-être comme un instituteur, il avait été... reconnu par la population que maintenant, bon, bah, il est flic, voilà, banal.
Et votre prénom?
Philippe.
Philippe, vous, vos parents, faisaient quoi?
Dans le bâtiment, mon père et mère au foyer. Ouais, peut-être que la population a une idée négative de la police. Mais elle a peut-être raison, la population, vu qu'on n'amène pas de solution. La garde à vue facile, c'est aussi un entraînement pour le jeune délinquant. Le jour où on va le serrer pour une réelle affaire, il aura déjà fait 7 ou 8 mesures de garde à vue, où à chaque fois il a été laissé libre, ou déféré mais pas incarcéré. Pour lui, c'est un entraînement. Le jeune qui vient en garde à vue, qui est laissé libre, il retourne dans sa cité, il gravit un échelon dans l'échelle de son groupe. Parce que t'as vu, je suis allé en garde à vue à Eric Satie, j'ai pas parlé, tu peux me faire confiance. Donc il devient petit chef, hein, il grimpe. Et ils le disent. On arrive à discuter avec certains. C'est presque nécessaire d'être connu de la police pour avoir une reconnaissance de la cité. Donc la garde à vue, c'est pas forcément un truc bien. C'est des statistiques, des camemberts, des chiffres. Est-ce que ça lutte réellement contre la délinquance? J'en suis pas persuadé.
Comment elle va, cette police?
Individuellement, elle doit pas aller très très bien. En groupe, enfin, l'institution doit certainement aller bien. Enfin, les chiffres doivent être bons. Mais est-ce qu'on a résolu quelque chose? Je sais pas.
Interrogation classique chez tous les policiers qu'on a rencontrés. Cette histoire de chiffres, les obligations de chiffres et off, bien évidemment, les manipulations sur les chiffres. On va revenir sur ce chapitre-là, mais enfin quand même, selon un rapport, écoutez bien quand ça vaut le coup, selon une étude interne qui a été menée conjointement par les inspections générales de l'administration, IGA, de la police nationale, IGPN, et de l'inspection de la gendarmerie nationale, eh bien, il y aurait comme une sorte de suspicion sur les communiqués de victoire régulièrement alignés par les ministères de l'Intérieur et notamment par celui de M. Nicolas Sarkozy entre 2002 et 2007. Parce que selon le rapport émanant de ces trois institutions gouvernementales, eh bien, un rapport sur les modalités d'évaluation de la qualité de l'accueil dans les services de police et de gendarmerie, eh bien, on estime pour la première fois les faits de délinquance qui, bien qu'enregistrés sur la main courante des commissariats, ne sont pas répertoriés dans la police sous forme de plainte comme il le devrait. Et la conséquence de cet étrange oubli, eh bien, c'est que il y a beaucoup de statistiques qui sont tout à fait truquées. Il faut bien dire les choses, tout simplement. Et il y aurait ainsi, selon ce rapport, toujours publié en tout début de 2007, 500 000 délits qui seraient oubliés, des petits délits, pour la plupart, des vols, violences physiques, etc. Ça peut des fois être assez, pas forcément insignifiant. Eh bien voilà, on peut faire baisser ou monter les chiffres de la délinquance. Et voilà, ce sont des directives, ce sont des vœux des autorités, de la hiérarchie. Et le flic de base n'a plus qu'à obtempérer et à s'y plier. Ça s'appelle la bâtonnite. C'est-à-dire qu'on fait, tout ça, on met des petits bâtons. On met un petit bâton, puis un autre petit bâton. Et voilà, c'est ça les chiffres. Évidemment que tous les policiers le savent et essayent de faire leur boulot malgré tout, avec un certain enthousiasme. Comme Nicolas, là on était avec un flic, disons, d'un certain âge, qui a déjà des heures de vol. Voilà Nicolas qui arrive dans la profession.
Non, bon, mais...
oui. On peut verbaliser quelqu'un, oui, qui fume dans un établissement.
Un chef, il y avait deux terres, non?
Vous n'avez pas encore fait le motif, c'est ça qui vous...
Ouais. C'est quoi, ne pas faire le motif
de... Non, en fait, comment interdiction de fumer dans les lieux publics, il n'a pas encore fait ce motif. Il essaye de faire tous les motifs possibles et inimaginables.
Bon, Nicolas, alors, vous voulez faire plein de motifs, c'est pour ça?
Je fais mon boulot, rien de plus. Hein. On nous demande des chiffres, on remplit les chiffres, tu vois. Puis je suis en outre, je fais mon boulot. À dire, j'interviens dans... Comment dire? J'ai perdu le mot. Chef, aidez-moi, j'ai perdu le mot. Comme dans tout service, on a des chiffres à faire et on se tapait sur les doigts. C'est comme pour toute autre entreprise. On a des objectifs, il faut les faire. Et puis voilà, ça fait partie du métier. Hein. Et c'est le quotidien qui a amené à rencontrer un gardien de la paix, un ADS ou... Ou un gradé quelconque dans la police nationale. Non, c'est faire du chiffre, c'est remplir les objectifs mensuels, quoi. Des opérations de contrôle routier, d'alcoolémie, d'alcootest, quoi. Et ça, c'est les objectifs, les chiffres.
82, le
TNPS. Vous avez quel âge?
J'ai 22 ans, je vais sur mes 23.
22 ans?
Ouais, je suis jeune encore.
Et pourquoi vous avez décidé de passer le concours de la police?
Avant, j'étais étudiant en commerce. J'ai fait 9 mois en tant que vendeur dans un magasin de bricolage. Et on va dire que la notion de policier, du métier de gardien de la paix, de flic, hein, on va dire, hein, plus banalement, est venue grâce à la famille, parce que j'ai quelques oncles qui sont collègues, hein, comme je peux dire maintenant, hein, sont collègues, m'ont donné la passion, une envie de faire ce métier. C'est un métier qui est très plaisant, il n'y a pas de routine, quand on se lève le jour pour aller travailler, ben, on a un peu le sourire.
Alors là, Nicolas, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites?
Bah, la voiture me semblait un peu suspecte, carreau vert, très sale. Je voulais simplement vérifier l'assurance, le contrôle technique imposé sur le pare-brise. Donc celui-ci est expiré depuis 2 mois. Et donc voilà, je le verbalise pour ça, parce que c'est dangereux. Maintenant, les personnes qui sont pas aux normes aux yeux de la loi, elles sont verbalisables, hein, tout simplement.
Verbalisons. Un aspect du métier et l'activité de la police. Un autre aspect, c'est celui, on nous en parlait tout à fait au début, ce jeune policier nous en parlait au début, celui de déboueur social.
Il faut que vous me parliez plus fort parce que on m'a tapé l'oreille et j'entends mal.
Vous êtes fait agresser dans la rue?
Oui, dans la rue, oui. Il y a 5 gars qui sont arrivés, ils ont commencé à me sommer, ouais, vas-y, donne-moi ton portable et tout. Alors moi, j'ai dit non, écoutez, je suis handicapé, j'ai besoin de téléphoner à plusieurs médecins, j'ai toutes mes données dessus. Puis ça a commencé à dégénérer, je me suis défendu et je me suis trouvé inconscient. Et là, ils ont pris mon portable et ma carte d'handicapés, voilà quoi. Ils m'ont emmené à l'hôpital et puis comme je suis tout seul, quand on a un traumatisme crânien, il faut pas rester tout seul. Alors comme je suis tout seul à l'hôtel, ils m'ont gardé en observation. J'habite par ici, dans un hôtel. C'est pas exactement fixe, c'est en attente d'un logement. Pour l'instant, je suis à l'hôtel, quoi. Et je suis pas bien, je suis angoissé. Ça fait un choc quand même. Et puis bon, la tête que j'ai, les gens qui me regardent, enfin, je porte des lunettes. Mais,
Parce que vous avez le visage tout humifié, en fait.
Oui. Je sais pas, les gens, ça les choque dans la rue. Alors, je préfère me cacher.
Vous sentez quoi dans le regard des gens qui vous...
Je sais pas, de la peur, de... C'est ce que les gens pensent. Non, je crois que c'est ce que les gens pensent normalement. Que je me suis bagarré alors que je me suis fait agresser. J'ai quel âge? Mais c'est indiscret, ça. J'ai 42 ans.
Oui, j'ai eu un sourire.
Voilà, on va finir cette visite de ce commissariat avec Fabrice, le portrait d'un jeune policier durkheimien et lecteur de Baumann, inattendu.
Fabrice, alors là du coup on va voir qui on peut auditionner. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes policier?
Alors, je suis rentré dans l'administration le 1er décembre 2000, donc ça va faire 8 ans.
Vous avez quel âge?
J'ai 28 ans.
Et avant 20 ans, vous faisiez quoi?
J'étais étudiant en STAPS, c'est sciences et techniques d'activité physique et sportive. Donc rien à voir, hein. J'ai passé mon CAPEPS une fois, je ne l'ai pas eu, j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis rentré. Pourquoi la police? Parce que la police, ça me plaisait, parce que c'était accessible, puis parce que l'air de rien, les études, c'est coûteux, et puis il fallait que je passe à la vie active. Peut-être la filière paternelle, parce que peut-être mon père était dedans, donc on a tout le temps, c'est ce qu'on appelle l'homonymie sociale. On veut toujours essayer de faire ce que le papa fait, ou ce que la maman fait, mais je suis rentré vraiment, je dirais pas par hasard, mais pas par conviction. Je me suis pas dit que j'allais changer la planète en rentrant dans la police, quoi. Mon père est gardien de la paix aussi. Enfin, il était gardien de la paix, il est à la retraite maintenant. Enfin, il était brigadier chef, et ma mère était infirmière.
Et vous avez choisi d'être justement dans les services
Dans un service d'accueil d'investigation judiciaire, parce que je trouve que la partie judiciaire est assez intéressante. Parce que bon, sur le terrain, c'est bien, vous interpellez les gens, mais après, vous allez chercher plus loin, savoir pourquoi ils ont fait ça. C'est bon, la première image est toujours la meilleure, la plus facile, c'est ce qu'en général, c'est ce qu'on retient. On retient une image assez simple. Là, le délinquant qui a commis un fait, patati patata. Mais quand vous faites les auditions, vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous partagez la misère sociale. Moi, je me rappelle par exemple d'une dame qui avait été prise parce qu'elle avait du crack sur elle. Elle avait 3 enfants et cette dame a se prostitué. Quand vous la voyez, vous devez vous dire, ah bah c'est une toxicomane. Mais quand elle vous raconte son histoire, elle vous dit qu'elle a goûté parce que vous voulez faire comme tout le monde. Et puis qu'aujourd'hui, eh ben, elle s'en sort pas, quoi. Qu'elle a perdu ses enfants et que l'état dans lequel elle est, c'est pas forcément un état qu'elle a choisi. Elle est peut-être victime d'avoir voulu faire comme les autres. D'avoir voulu être normal, parce que c'est un peu ça, être normal. Être normal, c'est vouloir faire comme les autres. C'est suivre un effet de mode, suivre le contexte social dans lequel on évolue, c'est ça. Et bien, souvent, on a des gens qui malgré eux, sont victimes d'être, on va dire, écartés de la société et étiquetés. Malgré eux. Moi, vous savez, il y a une expression que j'aime bien dire et qui est un peu vulgaire, c'est quand vous me dites que le caca, ça pue, vous m'avez rien dit. Ben, c'est pareil. Moi, quand vous me dites que quelqu'un il fume un joint, pour moi, vous m'avez rien dit. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils fument un joint parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des problèmes de santé, ça les apaise, ils n'ont pas les moyens de se payer. Voilà, maintenant, c'est tout un système. Donc, nous, notre boulot, c'est pas de juger les gens. Notre boulot, c'est, bon, voilà, vous avez commis une infraction, expliquez-moi comment ça s'est passé, est-ce que ça, c'est à vous, est-ce que ça, c'est pas à vous, est-ce que vous reconnaissez les faits, point barre. Maintenant, aller dire aux gens, c'est bien, c'est pas bien, faire la morale, c'est pas notre travail. Maintenant, chacun fonctionne comme il veut, mais moi, ma façon de voir les choses, c'est celle-là. Moi, toute ma vie, avant de rentrer dans la police, j'étais un petit étudiant, je travaillais dur pour payer mes études. La vie, c'est pas facile, quoi.
Faut... Vous faisiez quoi comme petit boulot, justement ?
J'étais professeur de judo, j'ai été agent de sécurité, j'ai été livreur de pizza, j'ai été professeur de fitness, voilà.
Vous êtes de Paris, vous ?
Non, je suis de Guadeloupe. Je viens d'une filière... Je suis venu en France quand j'avais 16 ans pour ce qu'on appelle les filières de haut niveau, parce que je faisais du judo à l'époque, et j'ai laissé ma famille là-bas. Donc voilà, moi personnellement, je sais qu'en faisant les auditions des gens, mon boulot, c'est pas de les juger, quoi. Parce que la galère, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Moi, aujourd'hui, je suis policier, mais je sais pas si demain, je peux pas être au bord de la rue et être sans domicile. Exterminer les gens, c'est pas mon taf. Hein. Moi, je suis... Ouais, je vais être un peu sociologue, on va dire que je suis durkheimien. Voilà, je suis durkheimien. Je pense qu'effectivement, en France... Parfois, il y a des pertes de repères. Et le problème, c'est que moi, dans l'arrondissement où je travaille, je ne peux pas me permettre de ne pas dire qu'il n'y a pas un manque de repères. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que moi, mon rôle, c'est pas de juger, parce que je ne peux pas. Je pense qu'on arrive dans une société où, comme dit Bauman, c'est liquide, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, La vie moderne liquide, c'est vraiment liquide, quoi. Contrairement, c'est vraiment. Lui, il explique qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est liquide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur solide. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, on consomme, que ce soit en amour, que ce soit. On consomme, et puis il n'y a plus les valeurs solides comme avant. Alors, je ne dis pas qu'avant, c'était mieux, parce qu'il y a peut-être des choses que nous, on ne savait pas. Voilà. Mais aujourd'hui, il parle d'une société liquide, que rien n'est solide, quoi, en fait, que rien n'est stable, que rien n'est fiable. On peut suivre personne. Les amis qu'on a, c'est pour un temps. Quand on a une copine, dès qu'on a un coup dur en amour, c'est pour un temps. On consomme, le sexe, c'est pour un temps. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Et moi, je pense effectivement, comme lui, je pense qu'après, le manque de repères. Qu'on voit tous les jours de cette société, je pense qu'effectivement, il y a derrière cette société, cette vie moderne liquide, comme dit Bauman. Ouais. Mais moi, j'y crois. Alors maintenant, moi, la question que je me pose souvent, c'est je me dis, bon, aujourd'hui, en gros, tout part en couille. C'est ce que je me dis. Et puis, quand je réfléchis, je me dis, mais est-ce que tout part en couille ou est-ce que tout est en train de se transformer et puis plus tard on va arriver dans quelque chose qui sera où les facteurs d'intégration vont se réadapter. Est-ce qu'en fait c'est pas une phase en fait? On n'est pas dans une période transitoire. Voilà, c'est la question que je me pose tout le temps.
Quoi. 19 de TG, 19 à
quoi? Les problèmes de radio, de catastrophe.
Ah ouais, la radio ça marche pas trop.
Bienvenue sur 19.
Le gros qui se barre avec le pull bleu, là. Bon, tant pis.
Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Non, mais l'uniforme y est pour beaucoup. Hein. Non, parce que ma femme me dit toujours « T'as signé sans réfléchir. » Alors eh, j'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil. Hein. Si on avait réfléchi, on n'aurait pas signé. Faut pas nous prendre pour des cons, hein, même. Remarquez, on rentre pas comme ça, la police. Hein. Il y a les examens et tout, parce qu'on est six chottes. Hein. Moi, je suis passé devant, il m'a dit « Combien j'ai de doigts ?» Alors, il y a les examens. Hein. J'ai dit « Je sais pas, 15 ?» Il m'a dit « Bon, signez-la, 15 ans. » J'ai eu du bol, hein, parce que j'ai dit ça au hasard. J'aurais pu avoir tout faux, hein. Eh, hey, c'est bien l'uniforme, c'est pour draguer. Les gossesses. Hop là-bas, la blonde avec le gosse au pied. Oui, vous avez au papier, je suis de la police. Voyons voir. Ginette. Joli nom, Ginette, hein. C'est votre petit frère, hein. Votre fils, bon, circulez. Non, là, c'est un mauvais exemple, mais d'habitude, ça marche. Mais la police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est ingrat, la police. Parce que, par exemple, parce que je vois, parce que les gens, ils nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger. Hein. Eh bien, remarquez, les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. C'est flagrant, c'est dans les manifs. Les gens, ils ont peur, hein. Parce que nous, on est là, bon, ben, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. On est obligé, hein. Puis en plus, on est obligé de faire grave, parce qu'il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux longs, on les reconnaît pas, hein. Et puis, il y a les appariteurs, c'est les mecs payés par la police, en civil. Ils cassent les carreaux, après on dit que c'est les étudiants, tout ça, alors on est obligé de faire vachement grave, hein. Eh ben, dis, tu vas pas qu'on t'apprête sur la gueule d'un flic, et... Voilà, ben, c'est la crise. Et une fois, c'est arrivé, on a tapé sur un flic. Voilà, la crise. Ils ont dit que c'était une bavure. T'aurais vu la gueule de la bavure. Moi, ça m'a passé l'envie de baver. Hein. Ah, je bafume, maintenant, impeccable. Non, mais on est une bande de jeunes, on se fend la gueule.
Inévitable quand même, hein, on ne pouvait pas finir autrement. Merci à tous, merci aux policiers du commissariat du 19e arrondissement de Paris. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, c'est qui suit, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Olivier Leroux, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Humbert qui écoute vos messages d'ores et déjà sur le répondeur de la basse où j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Je précise que sur les sites que j'ai cités, celui de France Inter, la rubrique émission La Basse J'y suis, comme sur là-bas.org, vous pouvez faire vos commentaires, vous pouvez écrire des messages, des observations, des coups de gueule et des coups de cœur, comme sur le répondeur de La Basse J'y suis, dont je répète le numéro 01 56 40 37 37. Et puis n'oubliez pas que les repères de La Basse J'y suis, les 99 repères, oui, il n'y en a pas encore 100, c'est 99. Eh bien, continue de fonctionner au cours de l'été. Vous pourrez consulter sur là-bas.org, encore une fois, ben, les adresses, de ces, les coordonnées de ces repères à travers l'hexagone, aux quatre coins de l'hexagone qui en comporte 8, hein, comme disait Gilux, pour faire un tour et rencontrer d'autres auditeurs de là-bas, si j'y suis, et de France Inter. Réclame.